Bac FM, il est 19h. Je vous propose un entretien tout de suite à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Je reçois Eve Bruno. Bonjour Eve Bruno.
Bonjour.
Vous êtes directrice formatrice du CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. C'est un organisme qui oriente et accompagne le public, en priorité les femmes, dans les domaines de l'accès aux droits, la lutte contre les violences sexistes, le soutien à la parentalité, l'emploi, la formation professionnelle et la création d'entreprises, l'éducation et la citoyenneté, la sexualité également et la santé. Vous faites partie d'un réseau de 106 centres comme le vôtre, présents dans d'autres départements. Vous proposez plusieurs services sur lesquels on va revenir tout à l'heure. Comment se compose ce centre ?
Alors, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, c'est une association loi 1901. Donc, comme dans toutes les associations, vous avez une gouvernance, c'est-à-dire un conseil d'administration qui est composé de bénévoles. Donc, ce sont ces bénévoles, en l'occurrence des femmes, il peut y avoir parfois aussi des hommes, mais en ce moment, il n'y a que des femmes. C'est cette gouvernance-là qui va donner, en fait, l'impulsion, qui va décider quel projet on va plutôt traiter, sur quel volet on va mettre l'accent pour telle année, sur un an, sur deux ans, sur trois ans. C'est cette gouvernance qui donne en fait la feuille de route pour l'année, pour les mois qui viennent, sur les projets qu'on va développer.
Cette feuille de route, justement, elle est faite en lien avec l'actualité. Généralement, vous suivez aussi de l'actualité qui traite les sujets dont vous êtes potentiellement... Vous allez potentiellement traiter ?
Alors, on peut s'en inspirer, bien sûr, parce que quand il y a des grands événements, ou par exemple aussi on pense au drame là qui s'est passé, enfin au drame, c'est même pas un drame, c'est une abomination qui s'est passée en Saône-et-Loire avec cette jeune, très très jeune fille qui a été mortellement poignardée
par son petit ami.
Voilà, ouais. Par le petit ami qui avait 14 ans, ils étaient très jeunes tous les deux. Évidemment que ça va avoir un retentissement dans les actions, notamment de prévention qu'on va pouvoir faire, mettre en œuvre, ou justement on va se servir de cette actualité-là pour justement en parler aux enfants, donner du sens, etc., faire le lien avec nos interventions pour pas que ça tombe comme un cheveu sur la soupe. En revanche, tout ce qui va être vraiment la détermination d'une politique qu'on va appliquer, voilà, de dire ben, cette année on va plutôt travailler les violences, cette année on va vraiment axer par exemple sur l'autonomisation des femmes, ça se travaille, on va dire, vraiment au fil de l'eau, tout le temps. Et puis, également, ça va se travailler. Alors, les bénévoles donnent le tempo. Et puis, les actions vont être mises en œuvre, non pas par les bénévoles, mais par les salariés. Il y a donc également un pôle de salariés. Alors, nous, on est une petite structure. Nous ne sommes que deux équivalents temps plein. Donc, on est deux salariés à temps plein pour l'ensemble du département.
Vous et une juriste animatrice, c'est ça ?
Exactement. Sophie Pierdet, qui m'assiste et qui va avoir en charge l'accueil du public et également tout le volet de la prévention. Et bien, nous allons du coup mettre en œuvre justement ces grandes lignes directrices, ces grandes décisions de travail qui sont positionnées avec le conseil d'administration. Si vous voulez, les unes ne travaillent pas sans les autres, c'est-à-dire qu'on est vraiment ensemble, on réfléchit ensemble. Nous, les opérationnels, on sait comment ça marche sur le terrain, on sait ce qui marche, on sait ce qui marche pas, on sait les points d'amélioration, on connaît bien les partenaires, et puis voilà, on va pouvoir aussi ensemble donner justement notre expertise aux bénévoles pour que les unes et les autres, ça s'emboîte bien et que du coup on fasse les choses dans le bon sens et dans le même sens.
Combien de bénévoles font partie du CIDFF 58 ?
Actuellement une dizaine, voilà, qui font partie du conseil d'administration, alors qui œuvrent voilà, sur leur temps libre. Le bénévole, ça veut dire, dans son acception première, la bonne volonté. Donc ce sont des personnes qui donnent de leur temps gratuitement pour la cause des droits des femmes.
Alors c'est une question que je pose régulièrement à différents organismes, différentes associations qui travaillent avec des bénévoles. Est-ce que c'est compliqué à l'heure actuelle de trouver des bénévoles ? Et est-ce qu'on est constamment en recherche aussi de bénévoles ?
On est toujours constamment en recherche de bénévoles parce que, surtout dans des associations comme les nôtres, avec un objet un peu particulier, l'égalité entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes, la lutte contre les violences, faut déjà avoir une petite appétence. Enfin, voilà, c'est pas évident, hein. On traite, nous, un sujet pas évident, un peu un sujet de niche. Donc, il faut déjà que, ça plaise aux gens, ça leur parle aussi, ça corresponde à leurs attentes, à leurs envies. Et puis, aujourd'hui, ce qui se passe aussi, et de manière plus générale dans les associations, c'est que on travaille de plus en plus tard. On voit bien actuellement que c'est un sujet de cristallisation. Or, pour avoir du temps libre, c'est pas évident quand on est en emploi. Donc, ça va, je pense, être un vrai sujet d'avenir, de vraiment trouver des personnes prêtes à s'engager, prêtes à donner du temps sur des sujets, je vous dis, comme les nôtres, qui deviennent en plus de ça, de plus en plus pointues, de plus en plus techniques.
Les sujets que vous traitez, il faut peut-être aussi avoir un engagement très personnel aussi, au-delà de d'être un simple bénévole, il faut se sentir très concerné par cette cause aussi.
Concerné et puis avoir aussi la bonne grille de lecture, parce que on peut être par exemple pour l'égalité femmes-hommes dans les grandes lignes, parce que voilà, ça pour nous ça fait sens, etc. Mais il faut savoir aussi aller bien décortiquer, parce que il y a des vrais enjeux qui sont très très importants aujourd'hui. Il y a des vrais sujets d'actualité comme l'identité de genre par exemple qui arrive beaucoup, comme également toutes les violences faites aux femmes qui sont encore beaucoup remises en question aujourd'hui. Les violences faites aux femmes, très classiquement, quand on donne les chiffres, très rapidement on va arriver sur le sujet polémique, oui mais et les violences faites aux hommes. Donc vous voyez, ça c'est des sujets qui sont pointus, qui sont ardus, qui portent à polémique, et ça, ben faut savoir aussi maîtriser ça, savoir y répondre, savoir s'engager. C'est pas évident, et c'est vrai qu'on peut pas reprocher aux gens de dire ben voilà, j'ai pas envie de m'engager, ça me fait un peu peur. On peut pas leur reprocher parce que effectivement ça devient pointu.
Justement, c'est des sujets sur lesquels on pourra revenir tout à l'heure, justement pour que les auditeurs comprennent bien cette différence et vos engagements aussi précis. Et des services, l'accès aux droits, c'est un des services majeurs du CIDFF. C'est un constat aussi que les profils qui viennent vers vous sont peut-être très peu renseignés aussi sur leurs droits en fonction de la raison pour laquelle ils viennent.
Ah bah ça c'est très classique, mais du coup c'est tous les profils qui sont pas renseignés sur leurs droits. Parce qu'en France, on n'a pas de culture juridique. En France, mis à part si vous allez à l'université,
oui, c'est un sujet qui n'est peut-être pas assez appris, peut-être pas assez éduqué.
Exactement,
aussi,
exactement. Avant. C'est-à-dire que vous avez très peu de matières à l'école maternelle, élémentaire, etc. Vous apprenez pas le droit. Au collège, vous avez, je crois, 30 minutes tous les 15 jours.
Alors,
au collège et au lycée, sur de l'éducation civique, citoyenne, je sais même plus comment ça s'appelle
alors, tout
exactement.
Tout dépend des filières après
voilà.
Qui sont prises par les élèves, mais oui, effectivement.
Mais en tout cas, ça reste quand même, même si c'est une heure par semaine, ça reste extrêmement peu. Ce qui fait que du coup, quand vous arrivez à l'âge adulte, vous avez peu de matière. Et ça, c'est du coup, tous les profils, c'est très franco-français. On n'a pas, nous, de véritablement d'éducation sur la question juridique. Ce qui fait que du coup, notre mission, elle est essentielle parce que nous allons accueillir absolument tous les profils. Nous, on n'est pas du tout discriminant là-dessus. Femmes, hommes, couples, professionnels également dans le cadre d'accompagnement. Et on va donc donner ce renseignement-là, cet accès au droit, cette vulgarisation, parce qu'en plus, le droit, non seulement on le connaît pas, et quand on y a accès, c'est compliqué. Parce que la législation française, elle sait pas dire les choses simplement, on fait des phrases alambiquées, on a des textes des fois qui datent de plusieurs décennies.
Et avec un parler qui n'est pas forcément compris par tout le monde.
Exactement.
Avec des termes très spécifiques, très pointus.
Exactement. Donc nous, on est là vraiment pour que ça soit accessible au commun des mortels, et ensuite, surtout derrière, que les gens repartent en sachant quoi faire, comment le faire et auprès de qui le faire. Et j'ajoute que pour exercer cette mission, c'est pas juste nous qui souhaitons donner du droit, l'État exige de nous, donc des salariés des CIDFF France entière, que nous soyons diplômés à minima d'un master de droit. Ça veut dire bac plus 4 ou bac plus 5, ou même bac plus 8 si on veut, enfin voilà. Donc vous vous rendez compte quand même, le niveau d'expertise qu'on exige de nous, ça garantit aussi le sérieux de notre mission. Sérieux, qui est d'ailleurs reconnu également. Alors ça peut paraître un peu comme ça, des trucs administratifs, mais c'est quand même vachement important. Nous sommes une association agréée par l'État, c'est-à-dire que l'État vient surveiller ce qu'on fait, vient contrôler qu'on est bien diplômé, qu'on fait bien le job, et il nous agrée pour qu'on continue cette mission.
Il y a une main de l'État aussi, voilà, qui surveille que votre accompagnement soit dans les règles de l'art, on va dire.
Oui, absolument, absolument. Bah, ça garantit quand même aussi le sérieux. Aujourd'hui, on voit apparaître tout un tas de trucs en plus sur les réseaux, enfin voilà, l'internet, etc. La digitalisation, des plateformes, renseignons-nous, divorçons en une heure, etc. Aujourd'hui, n'importe qui peut sur internet s'improviser spécialiste du droit, je sais pas quoi, voilà. Or, le droit, c'est pointu, le droit, c'est des études. Le droit, c'est sérieux et ça nécessite justement cette surveillance-là. Quelque part, nous, à la limite, c'est pas dérangeant parce que au moins ça garantit véritablement le sérieux de notre action.
Et justement, vous accompagnez aussi certaines victimes dans des possibles démarches juridiques par la suite ?
Bien sûr. Le droit, c'est la vie tout entière. C'est le droit du travail, c'est le droit de la famille, c'est le droit locatif, c'est le droit des étrangers, les assurances, les prestations sociales. Et puis ça peut être aussi des victimes d'infractions. Alors nous ne sommes pas association d'aide aux victimes. Ça, c'est nos collègues de France Victimes qui sont vraiment ultra spécialisés, avec qui on travaille main dans la main, justement pour que eux, ils abordent le pénal où ils sont les grands spécialistes. Mais nous, on va avoir parfois aussi des victimes qui vont arriver en première intention auprès de nous. Je pense notamment aux victimes de violences conjugales, et pour lesquelles on va quand même bien les prendre en charge, c'est-à-dire assurer un premier accueil, une première écoute, une information de premier niveau, et ensuite, si elles le souhaitent, être orientées vers les super spécialistes. Parfois, elles préfèrent rester auprès de nous parce que voilà, le premier niveau est suffisant et que du coup, elles vont trouver réponse à leurs questions. Mais c'est un volet très très important que d'assurer cet accueil-là pour les victimes de violences au sein du couple et les victimes de violences intrafamiliales.
Vous parliez tout à l'heure aussi que les professionnels pouvaient faire appel à vous. Alors, ils peuvent utiliser vos services. Cette fois-ci, c'est dans une démarche un petit peu différente, finalement.
Alors, le professionnel, lui, il est spécialiste sur la question qu'il traite. Quand vous êtes conseillère en économie sociale et familiale, vous êtes un ou une spécialiste du budget et de l'accompagnement budgétaire. Quand vous êtes spécialiste, moi je sais pas, de la protection judiciaire de la jeunesse, vous allez savoir traiter l'enfance délinquante, etc. Et parfois, dans ces accompagnements-là, émerge une question de droit qui n'a rien à voir avec la spécialisation du spécialiste qui accompagne, et pour lequel, bah, du coup, il a besoin, ce professionnel-là, d'une lumière, quoi, d'être aiguillé, d'être informé, d'être consolidé dans l'information qu'il va donner aux jeunes qui suivent, ou aux bénéficiaires qui suivent, et donc ils vont venir nous trouver. Donc ça, c'est super classique, on travaille beaucoup, nous, avec les travailleuses sociales du conseil départemental, ce qu'on appelle classiquement les assistantes sociales, qui, dans le cadre de leur accompagnement social, elles vont avoir besoin des fois, un divorce un peu pointu, là je comprends plus comment ça fonctionne, ou là j'ai un monsieur qui me dit que au niveau locatif, oulala, ça va pas du tout, il a des choses que le bailleur va lui demander de prendre en charge alors que la loi elle semble dire le contraire, le professionnel est perdu, hop, on s'adresse au CIDFF et nous du coup on vient en soutien.
Quel est le profil qui est le plus amené à faire appel à vous au CIDFF, celui qui revient régulièrement ?
Alors, le profil, nous, on a plus de femmes que d'hommes, mais ça, c'est assez classique parce que dans notre histoire, on a été créé au tout début, il y a 50 ans, puisqu'on fête nos 50 ans cette année, pour véritablement
joyeux
l'accueil.
Anniversaire.
Merci beaucoup. Merci.
Vous les faites pas. Hein.
Mais oui, je sais bien, on me le dit souvent. Nous recevons plus de femmes que d'hommes, et ça, c'est assez classique. Je vous dis, eu égard au fait qu'on a été créé il y a 50 ans, pour recevoir prioritairement les femmes, qui n'avaient pas du tout d'accès, véritablement de lieu d'accès à leurs droits, il y a 50 ans.
Une époque où, c'était beaucoup plus compliqué pour les femmes d'avoir des services comme le vôtre maintenant.
Il y a 50 ans, pour tout vous dire, on était juste après la légalisation de la contraception, 67, et on était juste avant la légalisation de l'IVG, 75, d'accord ? Donc vous voyez, en 1972, on est à la croisée des chemins. Il n'y a pas de lieu spécifique dédié à l'accueil des femmes. Pour tout ce qui était la santé, ça commence à émerger. On le voit, l'égalisation de la contraception, l'IVG, on le sent. C'est vraiment...
Certaines choses commençaient à arriver, mais ce n'était pas encore...
Par rapport à vraiment cet aspect juridique, il n'y avait rien. Donc du coup, ces lieux-là sont créés. Ce qui fait qu'historiquement, on a toujours été repérés comme droit des femmes. Maintenant, ça n'empêche pas qu'on reçoive aussi des hommes, à peu près un quart, selon les années, entre un cinquième et un quart. À peu près 70% de femmes, et le reste, on va être sur des professionnels ou des couples. On va dire aussi que ce qui peut se recroiser sur tous ces profils-là, c'est les tranches d'âge. Les tranches d'âge les plus représentées, ce sont les 25-55 ans, hommes comme femmes. Ensuite, on va pouvoir aussi identifier des grandes thématiques. Alors nous, ce qui revient le plus souvent, c'est le droit de la famille. Plus précisément, le droit de la famille qui se décompose. Alors, ce qui est dommage, parce que nous, on est là pour donner le droit aussi dans son aspect prévention, anticipation. On peut anticiper aussi dans le droit de la famille. Par exemple, on peut, dans le cadre d'un mariage, faire un contrat de mariage. On peut également anticiper, par exemple, pour nos vieux parents qui, peut-être, un jour, auront des déficiences cognitives, etc., prévoir certaines choses pour la fin de vie, pour les héritages. Bon. Nous, en l'occurrence, on connaît plus de la famille qui se décompose.
Vous n'êtes pas forcément dans l'aspect moins joyeux. Du coup, vous êtes aussi là pour, comme vous dites, le contrat de mariage, qui est quand même un moment qui est quand même beaucoup plus joyeux que ce que vous pouvez connaître avant. Voilà, c'est...
On est là pour le droit. Donc le droit, il s'inscrit dans toutes les périodes de la vie d'une personne. Il s'inscrit dans la naissance d'un enfant, qui est plutôt un événement joyeux. Il va s'inscrire dans l'union, donc là également. Il peut s'inscrire dans une adoption. Il peut s'inscrire, alors effectivement, dans du divorce, dans un décès, dans du travail, dans trouver un travail, signer un contrat de travail ou rompre un contrat de travail. Le droit, c'est la vie tout entière. Partant de ce principe-là, on a à connaître, nous, d'énormément de situations différentes. Donc, mis à part ces trois grandes choses, je dis entre l'âge, voilà, les grandes thématiques et puis la répartition par sexe, ensuite, alors là, ça va être vraiment ultra personnalisé, hein. Les gens, il n'y a pas une personne qui vient pour la même chose que la personne qui suit, etc.
Chaque profil a son histoire. Si on reste sur les droits familiaux, c'est quoi l'égalité des rôles parentaux ? C'est un des services aussi au sein du CIDFF.
Oui, alors là, pour le coup, on va être sur tout ce qui va relever de la répartition des temps, mais aussi de l'idée qu'on se fait de sa propre identité. C'est-à-dire, c'est quoi être une femme, c'est quoi être un homme, c'est quoi être un couple. Alors là, on est plus dans le domaine de la prévention, pour le coup. C'est-à-dire que nous, on va beaucoup sensibiliser sur le fait que les tâches ménagères, c'est pas un truc de fille. Nous, les filles, on n'a pas un neurone spécial, je sais pas quoi, qui nous ferait adorer le balai brosse et faire les carreaux, quoi. Non, certainement pas. De même que les mecs n'ont pas de gène du bricolage ou de la mécanique auto. Et ça, du coup, c'est notre rôle, justement, de démonter ces stéréotypes-là, ces a priori, pour que...
Les hommes ont le droit de passer le balai pendant que madame fait la vidange, par exemple.
Exactement. Ou les femmes ont le droit de rien faire, aussi, pendant que monsieur s'occupe des gosses. Et... Les garçons ont aussi le droit de s'épanouir dans une vie de père de famille, sans devenir pour autant ce qu'on va classiquement entendre des PD, des pédales, voilà, des sous-hommes. Et les femmes, les filles, ont le droit d'aller, je sais pas quoi, aller faire du karaté toute la journée, sans être pour autant des garçons manqués. Ça, c'est tout à fait décisif de le prendre très tôt. Donc ça, c'est tout notre travail de prévention. Plus on démonte tôt les stéréotypes, plus on va permettre aux gamins, filles, garçons, de pouvoir s'épanouir dans des rôles qu'ils auront choisis et pas des rôles qui auront été dictés par la société. Et ça, c'est fondamental parce que du coup, un enfant épanoui, fille comme garçon, ça va donner un adulte épanoui et un adulte qui pourra du coup se projeter dans des tâches, qu'elles soient ménagères, qu'elles soient parentales, sans que ça soit compliqué.
C'est une thématique qui évolue quand même énormément au fil du temps maintenant.
Alors, qu'elle évolue énormément au fil du temps, on va dire que... Les choses bougent pas beaucoup de ce côté-là. Au sens où nous, on fait toujours énormément de prévention. Mais par exemple, on sait que le temps consacré aux tâches domestiques, aujourd'hui, entre les femmes et les hommes, il est toujours déséquilibré. Les femmes en font toujours plus que les hommes. Et ça, malheureusement, ça y est, ça ne bouge plus. On est sur un espèce de plafond de verre où ça ne bouge plus. Donc ça veut dire, vous voyez, que là, sur ces thèmes un peu qui se cristallisent, il faut toujours mettre le paquet sur la prévention. De même, par exemple, que là, on sort d'élection, présidentielle, législative, on voit qu'il y a un léger recul du nombre de femmes au niveau de la députation. Ça aussi, ça questionne. C'est-à-dire, comment ça se fait qu'on n'arrive plus trop là à voir les choses s'étaient arrangées à un moment donné. Et puis, on voit que les femmes, déjà, s'engagent un petit peu moins. Bah oui, mais en même temps, s'engager, c'est bien joli, mais encore faut-il avoir du temps pour le faire.
Notre première ministre, qui est une femme, était la première depuis de nombreuses années à avoir été première ministre depuis 30 ans.
Voilà, depuis exactement. 30 ans. Et c'est pour ça que, vous voyez, c'est pas normal, quoi. On se dit, purée, puis elle est la seconde sur la liste. Enfin, là, oh là là, mon Dieu, c'est juste normal qu'une femme accède à ces postes-là, quoi. C'est juste normal. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est que pour que ça devienne naturel, il faut absolument qu'on puisse permettre aux femmes aussi de s'investir dans des rôles comme ça, publics, en les dégageant de la double ou de la triple journée, c'est ce dont on parlait juste avant, quand on a 5 heures de tâches domestiques par jour à faire à la maison, c'est 5 heures qu'on ne peut pas consacrer au bien commun. Donc ça, faut qu'on le démonte, et c'est notre travail de prévention.
Eh Bruno, on va faire une petite pause musicale. Je vous ai demandé, avant notre entretien, de choisir une musique qu'on allait diffuser pour cette pause musicale, et vous m'avez répondu.
Angélique Bigoudi, de Charles Lely Couture.
Pourquoi ?
Alors c'est une chanson qui est très rigolote, qui est un peu ancienne déjà, très rigolote déjà dans son rythme, dans la façon dont il a de chanter. Et puis c'est l'histoire d'une femme qui est très très préoccupée par ses cheveux. Et justement, je crois, ça démontre aussi toute la pression qui est mise sur les femmes, sur leur apparence physique, sur tout ce qui pèse sur elles en termes de beauté, en termes de diktat, en termes de
une chanson engagée capillairement.
Ouais, exactement. Alors à la base, je pense qu'il l'a pas fait du tout pour ça, mais en tout cas, moi ça me fait kiffer.
C'est comme ça que vous l'écoutez.
C'est ça exactement.
Back FM, on revient juste après ça.
Quand Angélique sort de la salle de bain, elle a les cheveux qui reviennent. Et je trouve que ça lui va bien, mais c'est pas naturel. Elle a les cheveux lisses, comme de la ficelle, comme une queue de tennis. Alors elle se met des bigoudis, bigoudis, des bigoudis, bigoudis. Ce qui fait que tout le monde lui dit, mais tu ressembles à une brebis. La tête dure, ça fait 20 ans que ça dure. Elle sourit poliment, elle ne dit pas un mot, mais préfère ce tourment plutôt que se voir sans ses rouleaux. Alors elle se met des bigoudis, bigoudis, des bigoudis, bigoudis. Ce qui fait que tout le monde lui dit, mais tu ressembles à une brebis. Elle continue ses suppliques, elle verra la crinière de la fée des capillaires, qui la soulagera sûrement de cette psychose séborée, lui donnera un cadogan ou une longue perruque bouclée. Elle se mettra plus des bigoudis, bigoudis, des bigoudis, bigoudis. Ce qui fait qu'on lui dira plus, mais tu ressembles à une
Eve Bruno, vous êtes mon invitée. Aujourd'hui, vous êtes directrice formatrice du CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. C'est un organisme qui oriente le public, en priorité les femmes vers plusieurs domaines, et les couples également, qui peuvent faire à vous sur une thématique qui est plus sur la santé et sur la vie sexuelle. Votre rôle là, il est plutôt de diriger vers un établissement qui leur convient, c'est ça ? Vous avez des partenaires sur ce domaine-là plutôt ?
Alors, on a des partenaires, mais aussi, on a aussi une action à mener. Alors là, du coup, je repars un peu sur l'histoire de la prévention, parce que tout ce qui va relever de la vie familiale, sexuelle, affective, c'est aussi un domaine où chacun et chacune a des droits et des devoirs. Et ça, comme on se l'est dit en tout début d'interview, les gamins aujourd'hui, ils n'ont pas de culture juridique. Beaucoup d'établissements scolaires s'en saisissent, mais ne travaille pas nécessairement cet aspect-là. C'est-à-dire que surtout l'aspect de la prévention, on peut aussi travailler le sommeil, bien manger, bien dormir, etc., ne pas fumer, enfin voilà, le cyberharcèlement.
Ça rentre notamment la période collège, avec les cours de SVT, de sciences et vie de la Terre, généralement, c'est à ce moment-là que c'est traité.
C'est ça. Et puis, très souvent, on ne traite ces situations-là que sous l'angle de la génitalité ou de la biologie. C'est-à-dire, comment l'appareil génital masculin est composé, comment l'appareil génital féminin est composé, machin, comment on fait les bébés. Ok, d'accord, très bien. Sauf que ça se résume pas à ça. Et donc, du coup, en matière de sexualité, de vie sexuelle et affective, le CIDFF, il a aussi son rôle à jouer pour donner aux enfants, et puis aussi aux encadrants, parce que ça fait du bien à tout le monde, et bien des informations sur leurs droits et leurs devoirs. Notamment quand on voit en France les chiffres de l'inceste, Je voudrais juste quand même rappeler sur cette antenne que c'est 6,7 millions de Français et de Françaises, donc 10% de la population, qui a été victime d'inceste. 10% de la population. Ce qui veut dire que sur un groupe de 20 gamins, eh ben vous avez au moins potentiellement 2 gamins de concernés. Donc nous, notre rôle, ça va vraiment être d'informer aussi les enfants sur ce qu'ils ont le devoir de faire, mais aussi le droit de faire quand ils sont victimes.
Et il y a un sujet qui fait débat justement à ce propos-là, c'est le nombre d'auteurs qui sont par la suite poursuivis judiciairement et le nombre de personnes qui sont incarcérées ou qui sont punies pour ces actes-là aussi.
C'est ça, bah c'est cacahuète, enfin, on le sait. Hein. Par exemple, pour l'inceste, on sait que 95% des auteurs sont des auteurs hommes, sauf que le problème, c'est que derrière, parfois, il va être très compliqué pour la victime de parler. Alors derrière ce phénomène-là de pas pouvoir parler, ça va se cacher le phénomène de stress post-traumatique et d'amnésie traumatique. Quand on est violé très très petit dans son enfance, le cerveau met en place un système très particulier pour rester en vie qui va faire que le souvenir, on va le cacher très 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 loin dans le cerveau et qu'on va l'oublier. Donc du coup, quand les événements ressurgissent, ils ressurgissent tard. Potentiellement, l'auteur, il va peut-être être décédé, hein, si c'était un papy qui a violé son petit-fils ou sa petite-fille. Et alors, pour peu qu'on arrive alors à poursuivre, la victime se souvient, elle a le courage, parce qu'il faut être ultra, ultra courageux et courageuse pour dénoncer ces faits-là, d'aller jusqu'au bout du processus, on sait que les condamnations, elles sont très, très faibles. C'est-à-dire que non seulement le taux de plainte, il est très faible, mais qu'en plus, derrière ce taux de plainte, le taux de condamnation au pénal va être encore plus faible.
Et ça rappelle cette histoire affreuse à Châtillon-en-Bazois qui s'est passée récemment et ces abus sexuels en réunion avec toute une famille entière sur des enfants et certains enfants qui connaissaient ça depuis une dizaine d'années déjà et qui n'arrivaient pas à en parler.
C'est très classique dans l'inceste, dans les agressions sexuelles, de se heurter ou d'observer, sans dire de se heurter, mais d'observer une loi du silence. Dans les familles, il y a de l'inceste, mais parce que toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait de l'inceste. Et il faut savoir aussi que les agresseurs sexuels, ils savent verrouiller la parole.
Il y a une manipulation aussi.
Exactement,
au-delà de ça, ouais.
On sait manipuler un enfant, on va savoir le faire taire, on va lui faire croire que c'est normal. Et du coup, ces situations, elles vont perdurer des mois, des années, voire plusieurs dizaines d'années. Et parfois, on va voir se répéter les choses sur plusieurs générations. C'est pour ça que nous, notre travail, il est tout à fait décisif de pas dire, on fait juste une session de sensibilisation une année, et puis c'est tout bon pour les autres années. Pas du tout. Parce que, justement, on peut avoir une amnésie traumatique, on peut avoir derrière des familles qui sont très dysfonctionnantes et qui vont vous manipuler sur le long terme. Et il est donc très très important, chaque année, d'y revenir, encore et toujours. 6,7 millions de personnes en France victimes d'inceste, c'est juste tout sauf anecdotique. Donc notre travail, vous voyez, il va être celui-là. Et du coup, pour répondre à la question que vous me posiez tout à l'heure, ça va être également, en fonction des situations, renvoyé vers des professionnels. Parce que nous ne sommes pas sexologues, nous ne sommes pas non plus conseillères conjugales et familiales. Et quand une famille dysfonctionne ou un couple, alors il n'y a pas nécessairement d'inceste, hein, il n'y a pas besoin d'arriver à ces extrêmes-là pour être mal ou malheureux et chercher des solutions.
Il y a aussi simplement la vie sexuelle entre le couple, sans forcément parler d'inceste, ni d'enfant, ni quoi que ce soit.
Absolument, absolument. Et vie sexuelle, et même, j'ai envie de vous dire, vie parentale, vie conjugale, hein, le couple, étant multifacette. L'idée, c'est que quand nous, on n'est plus compétents, c'est-à-dire que quand ça relève plus du droit, hein, quand on est en face à face avec une personne, et que du coup, on est au bout de ce que juridiquement on peut accompagner, mais que derrière apparaît une problématique plus de l'ordre du relationnel, de la réflexion sur soi, sur ce qu'on veut engager dans le couple, jusqu'où on est prêt à aller, ou justement quelles vont être nos limites au-delà desquelles on veut plus s'engager dans ce couple parce qu'on est trop fatigué, parce qu'on a tout donné. Là, du coup, l'orientation vers nos partenaires, elle va être décisive. Donc ça peut être effectivement des partenaires type conseil conjugal et familial. Ça peut être également des psychologues vacataires avec lesquels nous travaillons, notamment quand il y a de la violence dans le couple et que à un moment donné, il faut réfléchir aussi à cette relation. Pourquoi on est enferré dans une relation toxique, voire qu'on la reproduit, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu un premier conjoint, un deuxième, puis peut-être un troisième, avec lequel ça se passe toujours pas bien. Et donc, du coup, vous voyez, nous, on est au milieu d'un vaste maillage territorial et partenarial aussi. Pour lequel, eh ben, quand nous, on arrive au bout de nos limites, on va transmettre, on va passer la main.
La libération de la parole aussi par des personnes célèbres, par des personnes populaires aussi, est-ce que ça aide certaines problématiques? Je pense par exemple à Colline Berry, la fille de Richard Berry.
Alors, je vais être un peu nuancée sur cette histoire de libération de la parole. De toute façon, c'est toujours utile, indispensable, enfin je sais pas comment le dire, enfin voilà, décisif même, que ces libérations de parole-là, ces témoignages-là émergent. Ne serait-ce que parce que, grâce à Camille Kouchner avec sa Familia Grande, on a redécouvert les chiffres de l'inceste. Ça, c'est important. Il faut se rappeler que dans la Familia Grande, dans la famille Kouchner, le beau-père agressait sexuellement son beau-fils. Et Camille Kouchner, elle explique, elle met en lumière que même dans les milieux aisés, bobo parisien, machin, où il y a de l'argent, où les gens sont lettrés, ils sont allés à l'école, voilà, ils ont accès à tout... Eh ben, on viole. Voilà, on viole. Alors, sur cette histoire de libération de la parole, pourquoi je vous parle de ça? Parce que souvent, les gens nous disent « Ah, vous allez voir, ça va permettre au commun des mortels de libérer la parole. » Alors moi, je suis très mesurée, parce que déjà, vous savez, nous, on travaille dans un quartier de la ville, un QPV, un quartier prioritaire de la ville. Si vous allez interroger les gens d'un QPV, ou même, ne serait-ce qu'en centre-ville, enfin, peu importe, enfin, voilà, vous leur parlez de Camille Kouchner et de la Familia Grande, ça parle à personne. Hein. Il faut déjà suivre l'actualité, il faut déjà la comprendre, il faut déjà savoir la décoder, et puis ensuite, il faut se l'approprier, enfin, il faut la conscientiser, quoi. Donc, cette libération de parole-là, il faut voir aussi qu'elle vient quand même d'un milieu déjà plutôt favorisé. Epstein, Weinstein, c'est quand même des gens qui sont sur la place publique, des gens connus, etc. Je le dis aussi d'autant plus que tout à l'heure, on disait c'est pas facile de parler pour un enfant, il y a l'amnésie traumatique, etc. C'est pas facile non plus de parler pour un adulte. Pourquoi ? Parce que quand on est victime de violence, il y a différentes phases dans ces cycles de violence-là. Et quand on n'est pas au bon stade, c'est-à-dire le stade du dévoilement, bah vous aurez beau avoir des gens autour de vous qui, eux, dévoilent, vous, si vous n'êtes pas au bon endroit dans cette roue, hein, qu'on appelle le cycle de la violence, bah vous direz rien.
Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ouais, bah, elle le dit maintenant, elle aurait pu le dire avant ». Mais il y a aussi ce vrai problème de ne pas réussir à le dire, ne pas réussir à mettre les mots sur ce qu'on a vécu aussi.
Et puis parce que, je vous dis, dans les violences conjugales, par exemple, je vais prendre cet exemple-là, il y a 4 phases hein, dans un cycle de la violence, et notamment un où la parole est complètement verrouillée. Et cette parole-là, si vous arrivez à ce moment-là du cycle, en disant « Mais si, il faut parler, c'est vachement important », la victime, elle va vous regarder, vous dire « Mais non, c'est pas possible ». Elle va même nier, elle va dire « Mais non, moi je suis pas victime de violence ». Et au contraire, dans ce cycle, il n'y a qu'un moment où on peut avoir, vous voyez, sur 4 phases, il n'y a qu'une phase où on peut avoir la libération de la parole. Ça veut dire qu'il y a 3 autres phases où on ne peut pas l'avoir. 3/4 du temps, on ne peut pas libérer la parole. Et seulement 1/4 du temps où on peut. C'est pour ça que je suis toujours mesurée sur cette histoire de libération de la parole qu'on brandit comme un espèce de truc libérateur, quoi, qui va tout résoudre, une espèce de cette croyance magique que, hop, parce qu'il y en a un qui a parlé, les autres vont parler.
Mais ça aide quand même peut-être certaines personnes. Je prends l'exemple, par exemple, de Patrick Poivre d'Arvor, qu'on a tous connu. C'est une personne qui a aidé beaucoup, beaucoup d'autres femmes à libérer la parole sur les mêmes actes qu'elles ont connus par le même auteur.
Mais toujours pareil.
Et qui a poussé ces femmes.
On est sur une sphère très particulière, très fermée, très médiatique. Et ça, Patrick Poivre d'Arvor... Ça va pas parler au quidam. Là, si vous parlez à un gamin de 15 ans aujourd'hui, est-ce que tu connais Patrick Poivre d'Arvor? Non.
Bah sa grand-mère le connaît, mais pas lui.
C'est
oui.
Ça, exactement. C'est pour ça que je vous dis, cette prise de parole publique, elle est toujours très, très, très utile, véritablement. Et c'est pour ça que je la minimise pas. Mais il faut quand même la mesurer au sens où elle va pas bénéficier à tout le monde. Et ça, c'est important. Elle va pas bénéficier aux plus petits. Les plus petits savent pas. Quand on a 7 ans, on sait pas qui est Patrick Poivre d'Arvor. On sait pas qui est la Familia Grande. Et ne serait-ce que pour ces tout petits-là, ils font continuer la sensibilisation. Pour les plus grands, c'est toujours pareil. Oui, ça va permettre, ça a permis MeToo, hein.
Oui, voilà, ça a permis aussi d'autres engagements qui ne concernent pas forcément l'inceste ou les viols, quoi. Ça, voilà, il y a MeToo, il y a Balance ton porc, il y a tous ces élans de solidarité, si je puis dire, qui sont arrivés comme ça et qui ont permis la libération de nombreuses affaires, alors qui ont été derrière public. Il y a le tribunal médiatique qui rentre en jeu, c'est un autre sujet, c'est pas forcément bien non plus, mais ça a permis beaucoup de mettre en avant beaucoup de problèmes aussi.
Oui, les mettre en avant, alors toujours avec un constat que derrière, il n'y a pas toujours les moyens. Il y a même rarement les moyens. Simplement, pour vous donner un ordre d'esprit, le ministère des droits des femmes, c'est le ministère avec le plus petit budget dans le gouvernement. Alors que les chiffres sont absolument terribles hein, sur les violences faites aux femmes. On est toujours sur une femme qui décède tous les 3 jours. Là-dessus, il faut ajouter...
En 2021, il y a 113 féminicides comptabilisés.
Comptabilisés, oui, c'est ça.
C'est le terme.
Tout à fait, oui, 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 absolument, absolument. Sans compter les suicides forcés, hein, où là, c'est pareil, il y a des études là qui commencent à émerger au niveau de l'Europe et qui nous démontrent pour l'année, par exemple, 2017, hein, ça avait été, en l'occurrence, travailler sur l'année 2017, on a 209 femmes qui se sont suicidées dans un contexte de violence conjugale. Donc, quand vous additionnez les 113 à ces 209, eh ben, vous êtes presque à une personne, une femme qui décède par jour dans un contexte de violence conjugale. Et pourtant, on voit que les moyens n'arrivent pas toujours à suivre. Et ça, c'est dommage, parce que si on arrivait à faire beaucoup plus de prévention, si on arrivait à être beaucoup plus tôt dans la vie de ces victimes, eh bien, ça serait quelque chose de vertueux, parce que derrière, on n'aurait pas à dépenser beaucoup, beaucoup d'argent pour la prise en charge sanitaire, la prise en charge sociale, la prise en charge judiciaire. Ça serait complètement vertueux. Donc aujourd'hui, on ne peut que porter l'espoir que ces financements augmentent parce qu'on est sur un vrai problème de santé publique.
Et ça,
c'est important.
Ça m'amène justement à un sujet, c'est les violences. Alors, toutes les formes de violences comprises, sexistes ou sexuelles, les violences au sein du couple, les violences au travail, l'harcèlement sexuel, également les mariages forcés, les mutilations sexuelles, les harcèlements de rue. C'est tous les exemples que vous mettez en avant sur votre site. Les violences conjugales, c'est la problématique la plus récurrente. Oui. Au CIDFF.
Oui, 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 parce que tout ce que vous venez de citer, c'est ce qu'on appelle le continuum des violences, c'est-à-dire toutes les violences qui sont faites aux femmes. On ajouterait aussi les viols de guerre. Hein, actuellement, dans l'Est de l'Europe, on découvre, par exemple, avec ce qui se passe en Ukraine, comment le viol de guerre est utilisé comme arme de guerre. Hein, selon l'ONU, le viol de guerre, c'est une arme de guerre. Et ça, on le savait déjà un peu, notamment avec ce qui se passait en Afrique subsaharienne, ou justement pour les luttes de territoire, etc., pour l'accès à ce qu'on appelle les terres rares, hein, c'est-à-dire tout ce qui est dans le sous-sol et qui coûte très très cher et qui coûte beaucoup d'argent et pour lesquels il y a des luttes. On savait que les Africaines, beaucoup d'Afrique subsaharienne étaient violées, justement pour complètement désorganiser les communautés, les tribus, etc. Et ben maintenant, on voit qu'il n'y a plus besoin de partir très très loin, on voit que aux portes de l'Europe, on viole des femmes, on viole des petites filles, on viole des petits bébés filles, justement pour complètement casser la société ukrainienne et faire en sorte que, bien du coup, l'invasion soit plus simple. Donc, vous voyez ça, ce continuum des violences faites aux femmes, il est très large, il englobe plein de choses, mais il a comme point commun que on attaque le sexe féminin spécifiquement. C'est-à-dire qu'on n'attaque pas madame parce qu'elle est ukrainienne ou parce que je sais pas quoi, on l'attaque aussi parce que c'est une femme.
Parce que c'est une femme.
Exactement. Donc nous, dans ce continuum, effectivement, on va plus travailler en France sur les violences conjugales parce qu'on est un peu moins, surtout nous dans la Nièvre, exposés par exemple à ces phénomènes qu'on va plus trouver sur notamment frontaliers, tout ce qui va être les mariages forcés, les mutilations sexuelles, mais parce qu'on a des populations qui viennent au niveau des flux migratoires et qu'on va plus spontanément trouver sur les frontières. Donc oui, nous on travaille beaucoup sur ce thème des violences conjugales qui nous occupe une grande partie du temps et pour lesquelles malheureusement les chiffres ne baissent pas. Donc ça c'est une vraie problématique importante et surtout les âges parce qu'on a vu cet événement épouvantable, cette très très jeune fille de 14 ans. Et puis on voit aussi à l'autre bout complètement de la vie des femmes âgées et ou atteintes de handicap. Faut pas les oublier non plus les femmes atteintes de handicap. Qui vont vivre aussi ce phénomène-là.
Justement, ne pas oublier ces femmes atteintes d'handicap, est-ce que ça rejoint ce terme qui revient de plus en plus dans le débat public qui s'appelle le féminisme intersectionnel ?
Alors, le féminisme intersectionnel, c'est de dire effectivement qu'on n'est pas qu'une femme, qu'on est plusieurs choses à la fois et que donc, du coup, on peut être victime d'oppression.
Et c'est ne pas faire de différence entre...
Multiples.
Voilà, entre femmes, exactement.
Voilà. Alors, nous, au CIDFF, ce qui est important, c'est de recueillir la parole de toutes les femmes. Aussi parce que notre mission, je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes une mission d'intérêt général confiée par l'État. Et qu'en ce sens-là, nous avons aussi un rôle de veille. C'est-à-dire que sur le terrain, nous, quand nous observons des choses qui nous paraissent étonnantes, interrogeantes, choquantes, des choses qui nous paraissent pas rentrer dans le cadre de la loi, par exemple des femmes qui n'arriveraient pas à faire des dépôts de plainte ou des dépôts de plainte qui se déroulent particulièrement mal, nous avons une mission, nous, de faire remonter toutes ces données-là au niveau national pour que la problématique des femmes et de toutes les femmes, donc femmes handicapées, femmes étrangères, on sait qu'elles sont victimes de double, triple discrimination entre l'emploi, la couleur, etc.
La religion
alors
aussi.
Quand, voilà, quand vous êtes une femme étrangère, handicapée, victime de violences conjugales, waouh, ça fait beaucoup, hein. Voilà. Donc, vous voyez, nous, on fait remonter tout ça. Et du coup, ça nous donne vraiment une grille de lecture multiprisme, multifocale. Et c'est pour ça aussi que nous qualifions d'experts aussi sur ces sujets-là, parce que des lunettes, on n'en a qu'une paire, c'est les lunettes du genre. Mais véritablement, on va savoir justement comment traiter ces différentes problématiques-là. Donc, c'est pour ça que nous, il faut qu'on soit très, très affûtés sur ces problématiques-là, et qu'il faut également, du coup, pour les partenaires qui pourraient nous saisir, qu'ils n'hésitent pas à nous saisir, parce que ça, du coup, nous, on saura le travailler et faire remonter.
Si on veut rester sur les violences conjugales un petit instant, vous réalisez aussi des visuels de lutte contre les violences conjugales, que n'importe qui peut se procurer d'ailleurs. On y voit les femmes battues, on y voit les femmes subissant des violences psychologiques qui sont représentées par des dessins, par des phrases, par des témoignages même des fois. Pourquoi ne pas avoir pris aussi un exemple avec l'homme ?
Alors c'est un parti pris.
Parce qu'il est vrai qu'il y a aussi des hommes, bon alors c'est beaucoup moins que les femmes et ce qui serait l'idéal ce serait que ça n'arrive jamais dans aucun cas. Mais il y a des hommes qui sont également battus par leurs femmes.
Oui, il y en a et on ne le nie pas et on ne l'a jamais nié.
Juste pour revenir sur les chiffres, en France, donc, je le disais, 113 féminicides en 2021, des hommes tués par leurs femmes, c'est 18.
Oui, et sur ces 18, si on veut être tout à fait précis, on sait que sur les 18 homicides, hein, du coup, la moitié va être perpétrée donc, par une femme, hein, sur un homme, dans ce qu'on appelle un état de légitime défense. Je m'explique, hein, pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est. La légitime défense, c'est en fait quand, dans une situation de violence conjugale, une personne donc est en train de tuer, on va le dire comme ça, hein, de tuer une autre personne, et cette autre personne, dans une riposte immédiate et proportionnée, va se défendre, et donc du coup, dans cette défense, va tuer la personne qui était initialement en train de la maltraiter.
On a l'exemple de Jacqueline Sauvage, par exemple, qui est l'exemple peut-être le plus connu.
Oui, je dirais même Alexandra Lange, qui est celle au tout début. Alexandra Lange, on la connaît parce que donc son procès a été très médiatisé. Luc Frémiot, qui était l'avocat général, a eu cette phrase forte qui était de dire « Madame, vous êtes victime de violences conjugales, vous n'avez rien, votre place n'est pas dans une prison, votre place est chez vous auprès de vos enfants. » Et donc, dans les cas de violences conjugales, sur ces 18-20, alors ça va varier entre à peu près 18-20-25 hommes, ça va dépendre des années.
Ce qui est important de souligner, c'est que la proportion est moindre par rapport aux femmes.
Non seulement, vous voyez, on est sur 113-18, donc ça veut dire par rapport aux femmes, vous voyez, il n'y a que 10% d'hommes qui vont être sur ce ratio-là, et qu'en plus, sur ces 10%-là, la moitié va avoir donc perdu la vie dans le cadre d'une légitime défense, c'est-à-dire ils étaient eux-mêmes en train de tuer la conjointe, hein, on ne peut pas le dire autrement, et la conjointe a réussi à se défendre et donc l'ont tué. Donc vous voyez, le ratio, il est encore plus petit. Alors, pourquoi nous parlons de violences faites aux femmes, de violences conjugales, de femmes victimes de violences conjugales? C'est un parti pris, c'est un parti assumé. C'est un parti assumé parce que, aussi également, dans les politiques publiques au niveau de l'État, l'État parle bien de femmes victimes de violences conjugales, de plan départemental de lutte contre les femmes victimes de violences conjugales et de plan de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, oui, il existe des hommes qui sont victimes de violences conjugales. Nous ne le nions pas, nous ne l'avons jamais nié. Nous pouvons tout à fait les accueillir dans le cadre de notre mission d'accès aux droits pour tous les publics et d'accueil et d'accompagnement des femmes victimes, du coup, enfin des victimes de violences conjugales. Mais très clairement, on ne mettra jamais en égalité numérique, si je puis dire, en termes notamment de com, de choses comme ça, les hommes victimes de violences conjugales par rapport aux femmes. On fera toujours primer les femmes avant les hommes victimes de violences conjugales. Ce que je voudrais dire également, c'est que s'il existe des associations comme les nôtres, hein, accueillant donc prioritairement femmes, filles, mais je le redis parce que je veux pas qu'il y ait éventuellement de confusion, nous accueillons les victimes de violences au sein du couple. Donc s'il y a des hommes, nous les accueillerons. S'il existe bien des associations de femmes, il existe aussi des associations d'hommes battus, faut pas l'oublier non plus ça. Il en existe, vous pouvez les trouver sur internet, elles sont structurées, elles sont déclarées, elles sont pas cachées. Hein. Alors, par rapport à décrire, oui, est-ce que c'est difficile pour un homme?
Ça engrange aussi ce côté un petit peu machiste, c'est un peu la honte de se faire frapper par sa femme. Enfin, c'est ce qui est pensé, je veux dire.
Voilà,
hein. Je dis pas que c'est la vérité, que
c'est
ce soit
ça.
La honte.
C'est, voilà, c'est pour ça que je, voilà, il faut qu'on se redise bien les choses. Très souvent, c'est l'argument qui est avancé et qu'on peut entièrement comprendre. Effectivement, aujourd'hui, on est encore dans une culture très machiste où pour être un vrai bonhomme, ben, faut avoir des muscles, il faut pas se faire, faut pas pleurer, faut pas se plaindre, faut pas geindre.
Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Voilà,
exactement.
Et que, du coup, ben, s'il y en a un qui est plus fort dans le couple, ça serait plutôt spontanément dans notre représentation, du coup stéréotypée, l'homme que la femme. Alors moi, ce que j'ai l'habitude de dire par rapport à ça, ça va être compliqué pour moi d'argumenter parce que nous voyons donc statistiquement peu d'hommes victimes de violences conjugales, comme on se l'est expliqué.
Quand vous dites peu, c'est presque pas.
Quasiment pas, si on en a un à deux dans l'année. En plus, avec des profils également psychologiques qui sont très très particuliers. Donc c'est vrai qu'il faudrait pouvoir aussi avoir un échantillon plus large pour faire du coup une statistique qui soit vraiment forte, solide, sur laquelle on puisse vraiment
voir plusieurs situations familiales également.
Exactement.
Plusieurs profils. Ouais.
Alors, néanmoins, ce que je pourrais dire par rapport à cet argument qui revient souvent, vous n'êtes pas le seul à me le dire, vous voyez, je sors d'une session de formation professionnelle sur les violences conjugales, en l'occurrence, ça revient systématiquement sur le tapis. Moi, je réponds toujours la chose suivante. On s'est dit tout à l'heure qu'il y avait une libération de la parole, notamment via MeToo, les réseaux sociaux, hein, où d'un seul coup, face à un événement qui était quand même lointain, hein, parce que c'est Weinstein, ce gars-là, c'est un producteur hollywoodien, bon, t'habites dans la Nièvre, le producteur hollywoodien, logiquement, le rapport, il est ténu, hein, quand même. Néanmoins, on voit que cette vague MeToo, chez nous, qui s'est appelée aussi Balance ton porc, il a réussi à émerger sur la planète tout entière. Les femmes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont pris leur clavier et elles ont témoigné. Elles ont pris leur clavier, elles ont pris leur smartphone, tagalagala, et elles ont témoigné. Et là, une vague, quoi. Moi, je dis toujours, mais les hommes aussi, ils ont un clavier. Les hommes aussi, ils ont un smartphone. Comment ça se fait que si, éventuellement, l'ampleur du phénomène des violences faites aux hommes était peut-être telle, comment ça se fait qu'on n'a pas eu la même chose? Vous comprenez? C'est-à-dire que pourquoi les femmes qu'on n'entend pas, qui ont cette double journée, qui sont quand même maltraitées depuis des millénaires, faut quand même redire quand même ce qui est. Comment ça se fait que, du coup, ces hommes qui représentent donc la moitié de l'humanité, tout comme les femmes, qui sont dotés des mêmes outils, tout comme les femmes, on n'ait pas eu la même chose? Alors, peut-être pas en des proportions identiques, puisqu'on s'est dit, voilà, les femmes, les violences touchent quand même statistiquement plus les femmes que les hommes. Mais si vraiment il y avait quelque chose, on aurait dû au moins observer quelque chose, même proportionnellement plus petit, embryonnaire, on aurait dû l'observer, ça. Ça aurait été possible, c'est toujours possible. Or, il se passe rien. C'est pour ça que, alors je le défends et je l'assume, hein, je l'assume complètement. Nous parlerons toujours, prioritairement, des violences faites aux femmes. Je vais vous prendre un point de comparaison. Vous savez, il y a 400 ans, il y a eu une réforme de l'orthographe. La réforme de l'orthographe, qui a eu lieu il y a 400 ans, c'est même quand dans une pièce, vous avez 8000 femmes et un seul homme, le masculin l'emportera sur le féminin. Et bien là, sur les violences faites aux femmes, et je le déclare très très fort sur ce micro, vous voyez, je m'en étrangle, mais parce que ça me tient à cœur, je regrette, mais je ne dirai jamais que les violences conjugales concernent autant les femmes que les hommes, c'est faux. En termes de victimologie, hein, j'entends. Et je dirais toujours, je ferai toujours primer du coup la masse statistiquement la plus importante de victimes en disant « elle ». Et là, pour le coup, comme le « il » en orthographe inclut le « elle » parce qu'on nous dit « c'est la grande humanité, l'homme avec un grand H, ça inclut tout le monde », et ben moi, je vais dire la même chose. Ce « elle » des femmes victimes de violences conjugales, il intégrera un petit peu ce « il », mais on fera pas tout un chapitre sur les hommes victimes de violences conjugales. Parce que c'est pas ça la réalité de la victimologie sur les violences conjugales aujourd'hui.
Et ça rejoint le milieu scolaire, donc l'orthographe, tout ça, des actions dans lesquelles vous êtes présent, dans lesquelles vous avez justement des actions pédagogiques. On en parlera juste après. Mac Lemore, tout de suite sur Bac FM, on revient juste après. I feel glorious, glorious, got a chance to start again. I was born for this, born for this, it's who I am, how could I forget? I made it through the darkest part of the night, and now I see the sunrise. Now I feel glorious, glorious. I feel glorious, glorious. You know I'm back, like I never left. I never left. Another sprint, another step. Another step. Another day, another breath. Another breath. Been chasing dreams, but I never slept. I never slept. I got a new attitude.
food and the least on life is a piece of mind. Seeking a find, I can sleep when I die. Want a piece of the pie, got the keys to the ride and shit. I'm straight, I'm on my way. I'm on my way, get up my way. I'm running late, what can I say? Legend is Exodus, searching for euphoria. Trudging through the mud to find the present, no ignoring us. Got 20,000 deep off in the street like we some warriors. My mama told me never bow your head.
Whoa. I feel good.
Clément, sur Bac FM, Bruno, vous êtes toujours avec nous. Vous êtes directrice formatrice du CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. J'ai une dernière question à vous poser, c'est sur les actions pédagogiques aussi, également, parce que vous avez des engagements, vous avez des services, mais vous avez également des actions pédagogiques au sein des écoles. Lesquelles sont ?
Alors, la poursuite l'année prochaine, puisque les services de l'État nous font confiance et continuent de nous financer, donc des ateliers de sensibilisation auprès des établissements scolaires des quartiers prioritaires de la ville. Donc ça, c'est très important. Voilà, auprès des quatrièmes et des troisièmes, on essaye de faire des suivis de cohortes. Également, si c'est possible, alors là, c'est un point d'interrogation pour l'instant, parce que c'est toujours pareil, les financements étant le nerf de la guerre, pour l'instant, rien n'est sûr. Nous aimerions poursuivre une action engagée avec les collèges du Morvan, qui sont des collèges qui sont très éloignés et pourtant qui ont tout autant besoin dans cette ruralité très profonde et bien d'intervention également, de sensibilisation.
Des collèges que je connais très bien, on parle de Moulin-Gilbert, de Luzy, de Château-Chinon par
exemple. Voilà, de Monceau-Gelais-Sétton, de l'Orme également, de Corbigny. Donc voilà, il n'y a pas de raison, c'est pas parce qu'on est à la campagne qu'on est à l'abri de tout ça, du sexisme, des violences. Donc je croise les doigts pour pouvoir également continuer ce beau projet qui dure déjà depuis 2 ans et j'aimerais bien pouvoir le poursuivre.
C'est un rôle de prévention que vous faites avant tout dans ces milieux scolaires.
Ça fait partie de nos missions, c'est obligatoire, oui, absolument.
Si vous deviez me donner pour clore cet entretien, on sent que vous êtes une femme engagée, c'est une évidence. Quel est l'exemple que vous pourriez me donner ? Si c'est Simone Veil, c'est peut-être le plus bel exemple ?
Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et puis c'est difficile de faire primer une sur toutes les autres. Oui, il y a Simone Veil, mais vous avez aussi une belle salle à côté de ce studio qui s'appelle Génia Aubeuf. Quelle femme aussi celle-ci. Enfin, quelle force morale, physique. Elle a toujours porté la parole. C'était pas spécialement sur l'égalité, mais enfin, Moi, je trouve que toutes les femmes sont fortes, alors allez, rendons hommage à Jenny Aubeuf, je trouve qu'elle le mérite.
On garde Jenny Aubeuf.
Ouais.
Quelle est votre plus belle réussite au sein du CIDFF ?
Pouvoir l'avoir amené là où il est aujourd'hui. 2 salariés temps plein, une reconnaissance départementale, régionale. La plus belle réussite, c'est ça, c'est la confiance des partenaires.
C'est pas un sujet type d'une personne qui vous a peut-être plus marqué qu'une autre par rapport à son histoire, par rapport à son vécu et ce que vous avez pu lui apporter aussi ?
C'est difficile parce que il y a tellement...
On sent que toutes les histoires vous tiennent à cœur. On sent que vous êtes tellement engagé, tellement investi dans votre action que toutes les histoires sont très importantes pour vous. Il n'y a pas une histoire plus...
Non, il n'y a pas une histoire... Alors, il y a toujours des histoires qui nous marquent plus parce que, oh là là, ça va être une histoire où il y aura vraiment des rebondissements. Alors, j'aime pas trop ce mot-là parce que ça fait un peu film d'aventure et qu'on n'est pas vraiment là-dedans, mais on va dire des choses
dans
tellement...
Dans le sensationnel, oui.
Voilà, des choses tellement extraordinaires, des forces de caractère, des choses comme ça. À la limite aussi, c'est très bien que... Enfin, nous, dans notre métier, vous savez, on fait un métier qui est difficile. Et si on devait se rappeler de toutes les personnes très précisément, notre cerveau grillerait, quoi. Parce que c'est trop dense, il y a trop d'émotions, il y a trop de tout ça. Donc aussi, on apprend à vider le cache, hein, un peu, oui. comme
et à faire la part des choses entre le milieu professionnel et le milieu personnel aussi.
Exactement. Ouais. C'est très important si on veut durer. Donc c'est pour ça que je dirais que toutes les femmes qui sont passées au CIDFF, tous les couples, toutes les histoires sont importantes. Mais je dirais qu'au-delà de ça, c'est cette thématique-là. Et je vous dis, oui, c'est le fait de pouvoir s'inscrire au milieu d'un partenariat et au milieu d'un réseau. Parce que ça prouve qu'on fait... Tout seul, on peut rien faire. On est trop petit. Tout seul, on est trop petit. En revanche, faire partie d'un réseau et pouvoir apporter l'expertise, c'est-à-dire qu'à un moment donné, là, tiens, ben pour Madame Tartampion, on va lui apporter notre expertise juridique. Mais là, pour le groupe, par exemple, que j'ai formé il y a 2 jours, je vais apporter l'expertise sur les violences conjugales. Et là, sur telle audition au Césaire, par exemple, au Conseil régional, les CIDFF vont apporter leur expertise. Vous voyez, c'est ça qui compte. C'est de savoir qu'à un moment donné, les gens peuvent venir nous trouver et qu'on va arriver à faire sauter un frein qui soit individuel, groupal ou dans l'intérêt national.
Merci, Eve Bruno.
Merci beaucoup.
Merci d'être venu sur BAC FM nous présenter donc le CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Pour les auditrices, les auditeurs qui nous écoutent, qui veulent vous joindre, comment ils font ?
Le plus simple, c'est le téléphone. Alors, un téléphone, déjà une ligne fixe, le 03 45 52 31 14. Vous avez également la ligne portable qui est le 06 61 06 06 98. Et puis n'hésitez pas également à aller voir notre site internet sur lequel vous avez un formulaire de contact. Notre site internet, donc en minuscule tout attaché, nièvre.cidff.info sans S.
Voilà, vous avez pu prendre note. Merci beaucoup, Eve Bruno.
Merci à vous.
C'est le retour du son pop rock qui arrive tout de suite sur BAC FM. Je vous souhaite une belle soirée et un bon week-end. On se retrouve lundi. Bye.